Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vous pourrez commenter la réforme constitutionnelle au Tchad. La nouvelle constitution est entrée en vigueur vendredi dernier. Elle accorde des pouvoirs renforcés à Idriss Déby avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Du coup, l'opposition est vent debout. Elle affirme que désormais tous les pouvoirs au Tchad sont aux mains d'un seul homme et elle dénonce le silence complice de la communauté internationale. On va en parler évidemment ensemble dans une trentaine de minutes. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. D'ailleurs, si vous êtes au Tchad, plus que jamais, appelez-nous. Je sais que les réseaux sociaux sont fortement perturbés depuis la fin du mois de mars. Il est très très difficile d'avoir accès à Facebook. Habituellement, vous êtes plusieurs centaines à nous envoyer justement vos commentaires du Tchad via les réseaux sociaux. Vous êtes nettement moins, hein, disons-le, quelques dizaines seulement. Donc appelez-nous. Je vous rappelle le principe. Hein, vous nous contactez. Nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone. Évidemment, RFI vous recontacte et vous rappelle dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Ce matin, des questions sur la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, sur la finale de la Ligue Europa, c'est du football, sur les élections municipales de dimanche dernier en Tunisie. Mais d'abord, sur la mobilisation en France pour empêcher l'expulsion d'un Guinéen. Il s'appelle Moussa. Il est arrivé il y a 3 ans. Bonjour Fortuné.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Brazzaville et vous avez justement entendu cette information sur l'antenne d'RFI et vous aviez besoin d'un complément, d'explication.
Moussa Camara, Guinéen homosexuel, actuellement en garde à vue, est menacé d'expulsion de la France pour son pays. Quelles sont les causes de son expulsion? Que risque-t-il? Quelle est la situation des homosexuels en Guinée?
Oui, des manifestations ont d'ailleurs été organisées un peu partout en France la semaine dernière pour soutenir Moussa, ce Guinéen. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Journaliste au service France de RFI, on a également entendu plusieurs personnalités de gauche s'émouvoir sur le cas de ce Guinéen. Alors pour l'instant, Fodé Moussa Camara attend d'être jugé pour avoir refusé d'embarquer une nouvelle fois jeudi dernier dans l'avion qui devait le ramener dans son pays. Il devait décoller de l'aéroport. Au port de Lyon-Saint-Exupéry. Ça fait 2 fois que ce sans-papier de 28 ans échappe à une procédure dite d'éloignement. La première fois, c'était au début du mois dernier. Le commandant de bord avait refusé de le prendre dans son avion. Et ce qu'il faut dire tout de suite, Stéphane Lagarde, c'est que nous avons, concernant cette affaire, ce dossier, 2 versions, 2 points de vue sur cette histoire.
Oui, on a d'abord la version de Moussa telle que racontée, on en a parlé sur cette antenne. Moussa dit avoir vu son compagnon s'immoler en Guinée après une bastonnade parce qu'il était homosexuel. Lui-même, Moussa a pu s'échapper, il a quitté la Guinée pour la France et il a posé, vous l'avez dit, ses valises à Nîmes en 2015. Moussa est un artiste, Juan, c'est un acrobate, un très bon acrobate même, il peut porter jusqu'à 4 personnes sur son dos, paraît-il. On a vu d'ailleurs des photos de lui avec ses personnes sur son dos, sur les réseaux sociaux, en train de performer, comme disent les Américains, en train de faire son métier d'acrobate. Moussa est donc arrivé dans le sud de la France avec un visa de travail temporaire. Il a participé à des parades à Nice, à Montpellier. Il était aussi dans la Pégoulade, le défilé traditionnel d'ouverture de la Feria de Nîmes. Il a posé en photo aussi dans les journaux locaux avec des personnalités. C'est quelqu'un qui est apprécié, en tout cas sur le plan professionnel et dans son entourage. Ça, c'est ce qu'on sait. Problème, eh bien, son visa a fini par expirer. Il s'est retrouvé sans papier et donc il a fait une demande d'asile en France en raison de son homosexualité déclarée ou de sa bisexualité, nous disent certains de ses soutiens. Il travaille en tant que bénévole pour l'association Aide. C'est un cas qui fait beaucoup de bruit en France. Juan, il y a une très forte mobilisation. Vous avez raison. On a vu des manifestations dans les aéroports, dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le cas de Moussa a été fortement médiatisé également et du coup, en France comme en Guinée d'ailleurs, des responsables politiques, je pense notamment à la maire de Paris, ont pris sa défense.
Oui, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dit la France se doit d'accorder la protection à tous ceux dont la vie est menacée dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle. Et puis, Stéphane Lagarde, vous avez tous ceux qui ne croient pas à la véracité du récit de Moussa.
Oui, alors d'abord les autorités françaises qui ne croient pas à ce récit. Dans un communiqué, la préfecture du Gard précise que les agents de l'OFPRA l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, a étudié le cas de ce jeune Guinéen et qu'ils ont considéré, je cite, que les criantes persécutions exprimées par l'intéressé du fait de son homosexualité ne pouvaient être regardées comme fondées, fin de citation. Autrement dit, pour les autorités françaises chargées de l'étude des dossiers des réfugiés, Moussa aurait menti. Certains militants d'associations et de défense des droits de l'homme et des gays et lesbiens dans le département du Gard nous ont aussi dit qu'ils doutaient en tout cas de ce récit. Ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est qu'il est toujours difficile dans ce genre de cas, hein. C'est ça qui est important, de prouver son homosexualité. Ce que nous ont expliqué les associations, c'est que dans tous les cas, vu la médiatisation qu'a pris l'affaire jusqu'en Guinée, Moussa serait forcément confronté à quelques ennuis, hein, dans son pays.
Ah oui, rappelons qu'en Guinée, l'homosexualité est condamnée. Il risque jusqu'à 3 ans de prison.
Voilà, c'est ça. Donc la prison, selon le code pénal guinéen de 2016, tout comme l'ancien de 1998, eh bien effectivement, peine d'emprisonnement, une amende pour des actes, je cite encore, impudiques ou contre nature commis avec un individu du même sexe. Et puis il y a la jurisprudence aussi dans les faits. En réalité, il y a peu d'actions judiciaires selon des associations comme l'Amnesty International. Mais peu importe, Juan, j'allais dire, je vais vite parce qu'on a peu de temps, mais ce qui est important, c'est qu'à notre connaissance, il n'y a pas de loi, surtout, il n'y a rien qui protège les discriminations dont sont victimes ces homosexuels, notamment en matière de logement. Alors les choses se sont améliorées sur l'accès aux soins, sur la santé, mais quand même, de manière générale, la stigmatisation sociale en Guinée empêche les victimes de discriminations basées sur l'orientation sexuelle de dénoncer des abus. L'homosexualité reste un sujet tabou dans la société guinéenne, c'est ce que disait il y a peu un rapport du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de Belgique cette fois.
Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'être venu répondre à Fortuné qui nous appelait de Brazzaville. 10h17 à Paris, vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Idriss.
Bonjour Juan, bonjour Tom Khalife depuis Beyrouth et bonjour à tous les auditeurs d'ici.
Vous nous appelez d'Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez des questions sur le dossier du nucléaire iranien.
Effectivement. Juan, hier soir, le président américain Donald Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire iranien signé en 2015. Alors j'aimerais savoir, quelle alternative propose Donald Trump à cet accord ?
Ah, c'est une bonne question, effectivement. C'est vrai qu'on a cessé d'entendre Donald Trump ces derniers mois qualifier l'accord de 2015 comme étant un accord désastreux, un des plus mauvais, des plus déséquilibrés que les États-Unis aient jamais conclu. Bonjour Karim-Émile Bitar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Certes, Trump dénonce cet accord. Que propose-t-il à la place ?
Eh bien, la triste vérité, c'est que derrière toutes les fanfaronnades de Donald Trump et derrière toutes ses invectives contre le président Obama et l'accord qu'il avait signé, Trump ne dispose d'aucun plan B, d'aucune alternative véritablement sérieuse. Ce qu'il a proposé hier, c'est un retour aux sanctions américaines, à des sanctions qui seraient particulièrement sévères, particulièrement fermes envers l'Iran. Mais avant qu'il ne soit président de la République, il reconnaissait lui-même que les sanctions américaines à elles seules ne suffiraient pas à faire pression sur l'Iran et que les Russes, les Chinois, la communauté internationale n'allaient pas suivre. Aujourd'hui, l'Europe ne va probablement pas suivre, donc il n'y a pas d'alternative.
On a quand même l'impression que l'objectif final de Donald Trump, ce n'est pas tant d'améliorer cet accord de 2015, mais de changer le régime qui est au pouvoir à Téhéran. Hier, il a été très clair, il a dit « le futur de l'Iran appartient à son peuple qui mérite un meilleur gouvernement ».
Absolument, c'est un peu ça. Trump est entouré par 2 nouveaux conseillers violemment anti-iraniens, John Bolton et son ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo. Tous les deux étaient partisans de la guerre d'Irak en 2003. Ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oublié. Ils souhaitent en effet faire pression sur le régime de Téhéran, d'abord pour le mettre à genoux et ensuite éventuellement pour le changer. Mais ils sous-estiment considérablement le nationalisme sourcilleux qui règne à Téhéran et les Iraniens vont probablement serrer les coudes autour de leur gouvernement et faire monter à leur tour les enchères. Ils ne vont pas céder si facilement aux pressions américaines.
Alors justement, vous parliez des Iraniens. Question d'Idriss, on vous écoute.
D'accord. Juan, face au retrait des États-Unis de cet accord, dans quelle mesure l'Iran accepterait de négocier l'accord ?
On imagine, Karim-Émile Bitar, que l'Iran n'a vraiment pas l'intention de s'engager dans de nouvelles négociations.
En effet, ils ont déjà dit très clairement par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Jawad Zarif, qu'ils n'avaient aucune intention de renégocier. Ils n'ont aucune incitation à renégocier puisque l'accord n'a pas été respecté. Ils estiment qu'ils avaient fait énormément de concessions sur l'enrichissement de l'uranium, sur le nombre de centrifugeuses et que l'Amérique n'a pas tenu parole. Ils ont certifié par les organismes internationaux qu'ils n'ont pas violé cet accord. L'Union européenne a également confirmé cela. Donc l'Iran n'a absolument aucune incitation à accepter un nouvel accord.
Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que Téhéran souhaite continuer à respecter cet accord de 2015.
Oui, tout à fait. Et les Européens aussi vont s'efforcer de sauver cet accord. Une grande partie des pays du monde ne vont pas suivre cet unilatéralisme américain. Ils ont bien compris que ce n'était pas dans l'intérêt stratégique de la communauté internationale, que c'était une fixette personnelle de Donald Trump qui souhaite démanteler tout l'héritage de son prédécesseur Barack Obama, alors que même l'état-major israélien, l'armée israélienne, considère que cet accord n'est pas si mauvais que cela. À côté des déclarations de Netanyahou, on a tout un establishment militaire en Israël qui a compris que cet accord empêchait l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire.
Merci beaucoup Karim Émile Bitar, en direct de Beyrouth où vous enseignez les relations internationales à l'Université Saint-Joseph. Idriss, bonne journée à Abidjan où il est très exactement 8h22. On va parler football avec Frédéric Suto du service des sports de RFI. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juan.
Des questions sur la finale Ligue Europa. C'est dans tout juste une semaine, finale entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. Bonjour Ghislain.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Pointe-Noire au Congo, nous vous écoutons.
Oui, tout à fait Juan. Je salue aussi les auditeurs de RFI partout dans le monde.
Très bien.
Et voilà, suite à la qualification de l'OM en finale de la Ligue Europa, alors quelles sont les chances de l'OM en finale face à l'Atlético Madrid? Et est-ce que Steve Mandanda pourra-t-il jouer la finale après la performance de Johan Pelé?
Oui, sa doublure la semaine dernière face à Salzbourg, Frédéric Suto, l'OM peut-il ramener une nouvelle coupe européenne à la maison? En tout cas, cette finale s'annonce un peu compliquée tout de même.
Ah, ça n'est pas Salzbourg, hein, les Autrichiens de Salzbourg en demi-finale ou les Allemands de Leipzig en quart de finale. Là, c'est le gros morceau, effectivement, pour cette finale. Heureusement, hein, une finale, bon, ça se gagne, on a coutume de dire. L'Atlético de Madrid, entraîné par Diego Simeone, il est là entraîneur argentin depuis 2011, l'Atlético qui a sorti Arsenal en demi-finale, l'Atlético qui est parvenu à remporter le championnat d'Espagne en 2014 devant le Real, devant Barcelone. Il y a eu deux finales de Ligue des Champions ces dernières années, alors perdu à chaque fois face au Real de Madrid, mais l'Atlético a tout de même remporté la Ligue Europa
à
en 2012, reprises. 2010, 2012. Oui. Donc il y a une réelle expérience, des joueurs très expérimentés, Diego Costa, l'attaquant, Antoine Griezmann, hein, qui depuis le début de l'année est virevoltant, le Français, qui sera assurément le fer de lance de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais pour répondre à Ghislain, bien sûr, oui, bien sûr que malgré tous ces arguments que l'on développe pour l'Atlético, bien sûr que l'OM a ses chances. Il y a une ferveur incroyable qui a réveillé la ville, qui a réveillé Marseille depuis un mois et demi maintenant avec cette épopée européenne. Et l'Olympique de Marseille est sans doute le club français, en tout cas sur ces 30 dernières années, qui aime le plus l'Europe. Il y a quelque chose, c'est dans l'ADN de l'OM, il y a eu toutes ces finales. 91, perdu au tir au but face à l'Étoile Rouge de Belgrade. La victoire, la tête de Boli en 93, la grande Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Des finales de Coupe de l'UEFA, perdues, c'est vrai, en 99, en 2004, mais sur des concours de circonstances, un carton rouge, Fabien Barthez est expulsé, un pénalty. Bon, oui, il faudra peut-être un peu de chance, mais il y aura le public aussi, ça se joue à Lyon. Lyon-Marseille, il y a quoi? Il y a 200 kilomètres. C'est tout Marseille qui va venir supporter cette équipe. Donc, c'est joie, bien entendu, pour l'Olympique de Marseille.
Cinquième finale européenne de leur histoire pour les Marseillais. Est-ce que le gardien Steve Mandanda sera présent mercredi prochain sur le terrain?
Oui, a priori, il sera là, Steve Mandanda, puisqu'effectivement, il était blessé depuis la fin mars, blessure musculaire au muscle fémoral. Mais il a rejoué dimanche dernier. Il a fait sa rentrée pour le match de championnat contre Nice. Et Steve Mandanda, c'est le patron, c'est le guerrier, celui qui est là pour encadrer les jeunes quand il n'est pas blessé. Donc effectivement, Johan Pelé a assuré l'intérim de très belle façon, quart de finale contre Leipzig et contre Salzbourg, avec une parade décisive en prolongation à la 99e minute. Johan Pelé mériterait sans doute de jouer cette finale, mais il est incontournable, Steve Mandanda, dans le groupe quand il est là. Il a encore un match de championnat à Guingamp, vendredi, pour se roder, le gardien de l'OM, qui espère aussi être à la Coupe du Monde dans quelques semaines.
D'accord, en tout cas, vous êtes déjà dans le match, hein, Frédéric Souto, et on le sera tous, évidemment, en tout cas pour ceux qui soutiennent l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, Frédéric Souto. Ghislain, vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille, Ghislain ?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, bah écoutez, on croise les doigts et on sera avec vous mercredi prochain. Bonne journée à Pointe-Noire. Il nous reste 4 minutes. On va revenir sur les élections municipales de dimanche dernier en Tunisie. Bonjour Adama.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez du Mali, vous êtes à Djéné, c'est à 560 km au nord-est de Bamako, la capitale.
Ouais, oui.
On vous écoute.
Ok, et Gomez... le dimanche dernier, les Tunisiens étaient appelés aux urnes pour les élections locales, une première depuis la chute du régime de Ben Ali. Mmh. Ces élections n'ont pas du tout suscité une participation massive des électeurs, puisque selon les auteurs, les organisateurs, le taux de participation était de 33,7%. Gomez, qu'est-ce qui explique cette large abstention des électeurs lors de ces élections locales ?
Ouais, c'est une bonne question. On a du mal à comprendre pourquoi cette campagne électorale, ce scrutin a-t-il été boudé par les Tunisiens. Pierre Vermeren est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du Maghreb, professeur d'histoire contemporaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Notre auditeur le disait à l'instant, il s'agissait du premier scrutin municipal libre depuis la fin Ben Ali, mais même depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. Comment expliquer ce fort taux d'abstention ?
Bah écoutez, il y a une certaine lassitude dans l'opinion tunisienne qui est largement due d'abord au fait chez les jeunes que la démocratie, ça apparaît comme quelque chose d'installé, qui ne sera pas remis en cause. On a déjà oublié la dictature et d'ailleurs on observe un très fort taux d'abstention, particulièrement chez les jeunes. D'autre part, la lassitude tient au jeu de pouvoir complexe entre les différentes forces politiques qui... On voit bien qu'il y a des combinaisons, notamment lors des dernières élections de 2014. Le parti Nida Tunis avait gagné les élections et au lendemain des élections, s'était allié avec son adversaire islamiste. Bon, depuis, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a une certaine confusion, une certaine difficulté à lire le paysage politique. Et puis surtout, la situation économique, si vous voulez, est quand même très compliquée. Le chômage est très élevé et l'inflation dévore le peu de croissance. Du coup, il y a quand même une sorte de stagnation économique, pour ne pas dire plus, qui pénalise une grande partie de la population et notamment de la jeunesse.
Donc ça veut dire
des éléments d'explication.
7 ans après la révolution de Jasmin, les Tunisiens n'ont plus confiance en la classe politique.
Bah, si vous voulez, l'avantage de ces élections locales, c'est qu'elles vont contribuer à renouveler le personnel politique, mais c'est un phénomène qui est difficile. On a eu une classe politique plutôt âgée et plutôt qui n'avait pas d'expérience, qui est sortie des urnes en 2014. Aujourd'hui, bien sûr, elle est plus expérimentée, mais il n'y a pas vraiment eu de renouvellement encore. Du coup, la population ne se sent pas tellement représentée et elle trouve que cette classe politique qui n'a pas fait la révolution mais qui en a bénéficié est en dessous de sa mission historique.
Très rapidement, il nous reste une petite minute. Adama, vous avez une dernière question.
D'après les premiers résultats, Ennahda, le parti islamiste, est le grand gagnant. Qu'est-ce qui explique cette grande implantation du parti au niveau local ?
En 50 secondes, Pierre Vermeren, comment expliquer le succès d'Ennahda ?
En 50 secondes, la participation n'est peut-être pas de 33%, elle est peut-être de 21%, on va le savoir tout à l'heure. Et Ennahda aurait reçu un peu plus du quart de la participation. Donc vous voyez, un quart d'un tiers, ça fait pas beaucoup, mais néanmoins, ils sont premiers. Ça inverse les résultats des élections de 2014. Le parti du président est second. Ils sont dans un mouchoir de poche. Ils vont continuer à gouverner ensemble. Il n'y a pas de bouleversement, même si actuellement, il y a des tractations à la clé très importantes pour la mairie de Tunis. Ennahda est en tête et la coalition adverse essaye de rallier tout le monde pour faire barrage à cette candidature.
Donc on revient aux fameuses combines politiciennes qui étaient dénoncées par les électeurs depuis la dernière élection. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Vermeren. On attend évidemment les résultats officiels en Tunisie dans les prochaines heures. Reste avec nous, tout de suite, le journal.